sans nécessairement nous en apercevoir, nous sommes tous engagés dans un processus de formation continue tout au long de notre vie. Par exemple, nous restons tous plus ou moins au courant de l'actualité, chacun à notre façon, soit en écoutant les bulletins de nouvelles à la télévision ou en écoutant la radio lorsque nous revenons ou lorsque nous nous rendons au travail. Cela fait partie intégrante de nos vies et nous ne penserions même pas nous en passer. Et si vous ne croyez pas que c'est une formation continue, pensez que des fois, vous n'avez rien à dire quand on nomme la dernière nouveauté, mais que durant la semaine, vous n'avez pas eu le temps de regarder les nouvelles. Ça m'est arrivé hier. Je n'étais pas au courant d'une affaire que tout le monde savait. Parce que mon processus de formation continue, je ne l'ai pas beaucoup à cœur pour rester à jour dans tous les fins détails de ce qui se passe au Québec, au Canada, surtout quand je vis des situations personnelles qui me font accorder plus d'importance à autre chose qu'aux nouvelles. C'est un processus de formation continue. Rester un an sans écouter les nouvelles, vous allez voir que vous allez en perdre. C'est un processus de formation continue et nous sommes tous engagés dedans. Autre exemple, n'empêche, OK? Ça, c'était ma parenthèse. Rester ainsi à jour requiert de notre part que nous réservions des moments pour entendre ce qui se passe autour de nous. Ça ne se fait pas tout seul. Mais nous ne nous limitons pas à écouter, nous agissons sur ce qui est dit. Je continue à parler des bulletins de nouvelles et tout ça, là. Dimanche dernier, les gens de la Rive-Sud, qui font partie de notre petit groupe, sont restés chez eux. Pourquoi? Après s'être informés et avoir découvert que la route était bloquée à cause de la neige accumulée, ils ont compris qu'il ne serait pas prudent de s'aventurer dans la tempête. Et ils ont décidé de ne pas venir à notre réunion de petit groupe. Autre exemple, le marché du travail aujourd'hui exige que la formation initiale dans notre domaine de spécialité soit complétée par une formation continue pour toute la durée de notre vie professionnelle. En général, ces formations doivent être l'objet de notre planification et de notre engagement. Il faut aménager des moments pour y participer, il faut allouer du temps pour les réaliser. Et puis, il faut intégrer ce que l'on a appris d'utile à nos façons de faire quotidiennes. Il en est également ainsi pour notre parcours de vie chrétienne. Si l'on ne veut pas finir par être dépassé, si l'on ne veut pas finir par régresser, il faut intégrer à nos vies des mesures concrètes. Alors, à partir du premier chapitre de la seconde épître de Pierre, j'ai retiré ce que je vais vous proposer ce matin. Pierre nous propose, dans son premier chapitre de la deuxième épître, ce que nous pourrions appeler le curriculum, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, le programme, le curriculum, on appelle ça un curriculum, d'un projet de formation continue qui s'appellerait connaître Christ, toujours de mieux en mieux, tout au long de notre vie. Dimension théorique et dimension pratique. C'est ce que je retire de 2 Pierre chapitre 1, que je vais présenter aussi comme un peu une introduction de l'ensemble du chapitre de Pierre au travers de mon exposé. Ça va se faire au fil de l'exposé. Donc, croître dans la connaissance de Christ est un parcours à quatre dimensions. Il y a comme quatre gros blocs dans ça, quatre dimensions. Je vais traiter en premier ce que Pierre présente en dernier dans son premier chapitre. S'appuyer sur le fondement des apôtres et des prophètes. Deuxième dimension, pour croître dans la connaissance de Christ tout au long de notre vie, nous rappeler de qui nous viennent notre salut et notre connaissance initiale salvatrice de Jésus-Christ, notre connaissance de Jésus-Christ qui nous fait être sauvés, notre connaissance à salut de Jésus-Christ. Troisième dimension, pour croître dans la connaissance de Christ tout au long de notre vie, croire qu'il nous est possible de grandir ainsi dans la connaissance de Christ, puisque Dieu nous en rend capables. Et dernière dimension, c'est ce qui a été lu tout à l'heure, le passage de 2 Pierre chapitre 1, parfaire de manière concrète cette connaissance tout au long de notre vie. Dieu nous indique des choses qui relèvent de nous. Il nous rend capables, mais il nous indique des choses qui relèvent de nous. Et si nous ne les faisons pas, on passe à côté de quelque chose de vraiment central dans le christianisme. Alors, considérons la première de ces quatre dimensions nécessaires pour grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. S'appuyer sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous allons considérer maintenant les sources de vérité qui nous permettent de savoir comment orienter nos vies et comment détecter les mensonges à propos de Christ et les mensonges à propos de ce que Christ attend ou n'attend pas de la part de ceux qui disent le connaître. À la fin du sermon sur la montagne, dont on a eu un extrait tout à l'heure, Jésus, déjà, nous parlait de prétendus prophètes, parce que oui, Jésus s'adressait aux gens qui étaient là, mais juste un peu plus haut, il les avertissait contre les faux prophètes dont la vie n'avait rien à voir avec l'enseignement de Jésus. Et j'aimerais vous soumettre ce matin que la vie des gens qui n'ont rien à voir avec l'enseignement de Jésus peut nous indiquer qu'on ne devrait pas suivre ce qu'ils nous disent. Il y a des faux enseignants, ça existe. Et la deuxième épître de Pierre est écrite pour nous encourager à persévérer dans notre conduite de foi chrétienne et à nous avertir contre ce vers quoi veulent nous amener ceux qui s'éloignent des textes bibliques et qui nous disent, par exemple, que l'avènement de Jésus, 2 Pierre chapitre 3, c'est jamais arrivé, puis ça arrivera jamais. Attends pas ça, t'as mal compris. Ceux qui nous disent dans 2 Pierre, chapitre 2, tu peux vivre à peu près comme tu veux parce que ton corps, c'est pas vraiment important ce que tu fais avec ton corps, c'est vraiment important ce que tu fais avec ton esprit, puis de toute façon, t'es sauvé. Fait que fais tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème pourvu que tu dises au Seigneur, je t'aime. Non, c'est pas ça. Ça, c'est des faux enseignements. Si on dit au Seigneur, je t'aime, on doit vivre comme le Seigneur nous dit de vivre par les prophètes et par les apôtres. Et ça, on trouve ça dans 2 Pierre aussi, un appel à ne pas oublier ce que disent les prophètes et les apôtres. Les apôtres, c'est les auteurs du Nouveau Testament et ceux qui étaient sous leur autorité. Les prophètes, c'est les auteurs de l'Ancien Testament, en résumé. Ils se trouvaient dans l'Église, parmi les églises locales à qui étaient destinées les épîtres de Pierre, justement des faux prophètes. Et comme je viens de résumer, cette épître nous avertissait contre eux. Lorsque nous lisons 2 Pierre, chapitre 1, versets 12 à 21, la dernière partie, le dernier gros bloc du premier chapitre, l'on voit cette préoccupation chez Pierre de conduire les lecteurs à s'appuyer sur les écrits des apôtres et des prophètes comme source sûre de vérité révélée de Dieu. Par voie de contraste avec ce que prétendent les faux enseignants, ce n'est pas sur la base de mythes habilement conçus que Pierre a écrit son épître et enseigné aux églises. Il a lui-même vu Jésus. Relisez soigneusement 2 Pierre chapitre 1 dans votre préparation ce mois-ci, pour la seule discussion que vous allez avoir, là, parce qu'il y a une cabane à sucre, la semaine prochaine, on fait une adoration autour de la Pâque dans nos petits groupes, de ce que j'ai compris. Là. Donc, ça laisse une méditation pour ce message-là. Relisez 2 Pierre, le chapitre 1, et vous allez voir que ce que je suis en train de vous dire est un peu un genre de résumé de tout ça. Alors, Pierre a vu lui-même Jésus sur la montagne lorsque celui-ci s'est manifesté en gloire. Concernant cette gloire de Jésus-Christ, que, en passant, nous célébrons à Pâques, donc il y a une partie de ça qui pourrait même servir pour une méditation de Pâques, Pierre écrit En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est lui, ici je cite le 2 Pierre 1, 16 à 19, je cite textuellement de la seconde 21, « En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. » Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne et nous considérons d'autant plus certaine la parole des prophètes. Fin de la citation. La majesté que Pierre a vue sur la montagne en compagnie de Jacques et de Jean et la transfiguration relatée en Matthieu et je crois aussi en Marc et Luc. Six jours après que Pierre ait enfin compris que Jésus était réellement, qui Jésus était réellement, Pierre s'est exprimé ainsi, il a dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant » Matthieu 16, 16. Six jours aussi après que Jésus ait commencé à dire à ses disciples qu'il allait devoir souffrir, qu'il allait devoir beaucoup souffrir, être mis à mort, puis ressusciter le troisième jour, Matthieu 16, 21. Alors Jésus, Matthieu 17, 2, suite après, alors Jésus fut transfiguré devant eux, devant Pierre, devant Jacques et devant Jean. Ils étaient trois à voir ça. Et je cite Matthieu 17, 2, utilisez votre imagination pour interpréter mes phrases. Son visage resplendit comme le soleil. La même image que dans l'Apocalypse 1. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Matthieu 17, 2. Il y a eu un aperçu de ce que allait être Jésus dans la gloire qu'on retrouve dans l'Apocalypse 1. Selon Hébreux, chapitre 1, selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 3, ce même Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de la personne de Dieu. Il soutient tout par sa parole puissante et est maintenant assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Pierre et ceux de ses lecteurs qui étaient juifs d'origine, connaissez les prophéties concernant le serviteur de l'Éternel en Ésaïe 42, dont il était dit, Ésaïe 42, verset 2, là, textuellement, c'est écrit, « Celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. Hein? » Alors, quand au baptême de Jésus, une voix s'est faite entendre du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation. » Quand sur la montagne de la Transfiguration, Pierre, Jacques et Jean ont entendu cette voix du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon approbation. » Ils ont dit, « Ah, Ésaïe, il avait dit ça concernant le Messie, concernant, puis ça venait de Dieu. » Pourquoi vous dire tout ça? Je trouve que tout ça, c'est du matériel propice à une réflexion de Pâques orientée sur la gloire de Jésus-Christ maintenant. Mais pourquoi c'est important dans le contexte ici de l'étude de ce matin? C'est que ces gens-là, les premiers lecteurs de Pierre, n'avaient pas, qui étaient des Juifs d'origine, n'avaient pas, certains d'entre eux en tout cas, n'avaient pas besoin, comme nous, de se faire expliquer que la voix du Père entendue sur la montagne sainte quand Jésus a été transfiguré devant eux était un accomplissement de cette parole prophétique ou se rattachait à cette parole prophétique de façon très impressionnante. Cette voix du ciel provenant de Dieu affirmait, là je répète, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation, écoutez-le », dépendamment des traductions, approbation, affection. Alors, Matthieu 17, 5 et Ésaïe 42, 1, l'un vient de l'autre, d'où Pierre, après avoir mentionné cet événement, en 2 Pierre 1, 18, vers la fin du premier chapitre du deuxième épître de Pierre, il enchaîne immédiatement avec les paroles suivantes. « Nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. » Voyez-vous par où je vous ai amené pour aller où? Moi, je ne comprenais pas. Je lisais ça, ça ne voulait rien dire. Ça ne se connectait pas avec ce qui précédait. Mais il dit, nous tenons les paroles des prophètes pour d'autant plus certaines. Pourquoi? Parce que Dieu, on l'a entendu, nous, là. On a vu le soleil, le visage de Jésus. On a vu quelque chose d'inexplicable, mais qui a été prédit, qui a été annoncé par les prophètes. Puis dans Isaïe, de 40 à 60, Dieu dit, « Qui, comme moi, a prédit puis que les choses sont arrivées? » Alors, Pierre dit, « D'autant plus nous tenons pour certaines les paroles des prophètes. » Pierre nous encourage à faire confiance aux écrits des prophètes, mais aussi, il nous encourage à faire confiance aux écrits des apôtres. Ceux-ci n'ont... Et là, je suis en train de développer l'idée que sans les apôtres et les prophètes, nous ne saurions absolument rien de tout ce que nous avons célébré ce matin. Alors, c'est Pierre le dit en dernier dans son premier chapitre, vers le début de son épître. Mais nous avons besoin de nous rappeler que sans les apôtres et les prophètes, nous n'avons aucun fondement de connaissance concernant Dieu. Ceux-ci n'ont pas, les apôtres et les prophètes, n'ont pas inventé les contenus que nous pouvons lire. Les apôtres n'ont pas inventé les contenus que nous pouvons lire dans l'Ancien Testament, mais l'ont reçu, les prophètes dans l'Ancien Testament, mais l'ont reçu de la part de Dieu. D'où l'importance de ne pas interpréter à tort et à travers, comme bon nous semble, ce qui est écrit. Et là, vous vous êtes familier avec le passage qui dit... Les Écritures ne sont pas un sujet d'interprétation. Moi, ce que j'en comprends maintenant, là, après avoir examiné ça, c'est qu'il n'est pas en train de nous dire qu'il n'y a pas personne qui va interpréter ça tout de travers. Au contraire, parce que dans 2 Pierre 3, dans la même épître à la toute fin, il dit « Les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens des écrits de Paul. » Et ils interprètent à travers, comme ils le font aussi des autres Écritures. Alors, il y a deux choses qui se passent dans 2 Pierre 3, 16. Paul est mis au même pied comme apôtre, à titre d'apôtre. Il est mis au même niveau que les prophètes de l'Ancien Testament. Et il y a des gens qui tordent les écrits de Paul. Pourquoi ils tordent les écrits de Paul? Ils tordent les écrits de Paul pour dire « Jésus ne reviendra pas », chapitre 3. Puis pour dire « Fais ce que tu veux ». Puis couche partout, n'importe où. Nous, on le fait, on est des prophètes, puis on le fait, on couche partout, n'importe où, n'importe comment, sans aucune considération. Parce que c'est Paul, non, ça ne voulait pas dire ça, puis ça ne voulait pas dire ça. Tord les Écritures. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de considérer que ce que le premier chapitre nous dit, c'est les Écritures n'ont pas été faites pour être tordus, ils n'ont pas été faits pour être compris n'importe comment, parce qu'ils sont fondés sur des prophètes qui ont parlé de la part de Dieu, puis nous, on se fie là-dessus. Donc, pour moi, là, tout ça, je résume ça dans une invitation que je pense que Pierre est en train de nous donner à s'appuyer sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et là, je n'ai pas vraiment parlé de Paul, je l'ai mentionné un petit peu en passant. Paul est mis sur le même pied d'égalité que les prophètes, et si je lis avec vous 2 Pierre chapitre 3 verset 1, il nous dit, dans ce contexte où il cherche à encourager les chrétiens à persévérer dans leur croissance de Christ, d'une part, et à ne pas se laisser éloigner de la connaissance de Christ par des faux prophètes, il dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 1, « Bien-aimés, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris, dont 1 Pierre et 2 Pierre. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vous, à vos souvenirs, pour éveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que les commandements du Seigneur et Sauveur enseignés par vos apôtres. Donc, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont pour nous des ressources essentielles pour croître dans notre connaissance de Jésus-Christ de plus en plus tout au long de notre vie. Je pense que je vais sauter par-dessus ce que j'avais associé au verset 1 à 3. Le tout début de l'épître me paraît clairement nous inviter à nous rappeler qui nous a donné la vie que nous avons en Christ. Qui nous a fait connaître la vie en Christ. Alors, vous lirez mes notes, je vais vous les envoyer un peu plus tard au début de la semaine. Vous relirez le texte et vous allez voir que c'est de Dieu, et vous le savez déjà, mais vous allez voir que Pierre nous rappelle que c'est de Dieu que nous avons reçu le don de la foi en lui, et que c'est Dieu qui nous a fait connaître Jésus-Christ. Donc, c'est quelque chose qui nous a été donné par Dieu. Et la troisième dimension, je la puise dans 1 Pierre versets 3 et 4, et là je vais vous lire les versets 3 et 4, et cette troisième dimension-là, je l'ai appelée dans mes notes, croire qu'une telle connaissance est à notre portée, croire qu'il est réellement possible pour nous de grandir dans notre connaissance de Jésus-Christ. Et en résumé, ce que je vous dis ici, c'est que si vous regardez à la toute fin de l'épître, de la deuxième épître, il dit au verset 18, « Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Il nous demande de le faire. Donc, c'est possible de le faire. Mais aussi, dans le chapitre 1, et là, je vais vous le lire dans ma traduction, second 21, verset 3, chapitre 1, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, ou piété ou attachement au Seigneur, selon les traductions. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force, celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses, ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir. Il est possible pour vous de fuir. Vous êtes capable de fuir. Vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. » Ce qui nous amène à la dernière dimension, qui se trouve dans les versets 5 à 11. Au verset 5, il nous dit, selon les traductions, « À cause de cela même, ou pour cette raison même, 2 Pierre 1, 5, c'est-à-dire parce que sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, 2 Pierre 1, 3, à cause de cela même, aussi parce que, 2 Pierre 1, 4, la gloire et la force de Dieu nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses, parce que nous en sommes capables, parce que Dieu s'est fait connaître à nous, parce que la vie éternelle dont nous jouissons nous vient de Dieu, et parce qu'il souhaite que nous soyons capables, il nous donne cette capacité à cause de cela même, pour cette raison même, faites tous vos efforts. » Ah! Ici, là, le coq, sa job à lui, c'est d'annoncer que le matin va arriver. Il faut qu'il fasse sa job. Il n'a pas besoin de comprendre. Si c'est lui qui a cause le lever du soleil, il n'est pas placé pour comprendre. Il peut s'en rendre compte, mais il peut ne jamais s'en rendre compte. Mais il y a une job à faire. C'est coq, il faut qu'il fasse sa job le matin. Je sais pas. Alors ici, il dit pour cette raison même, parce que nous avons tout ce qu'il faut, Dieu nous l'a donné, pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, dit ma traduction. La force morale, dit la Nouvelle Bible Seconde, une autre traduction. La vertu, dit la Nouvelle Édition de Genève, qui est plus connue, qui ressemble beaucoup à la colombe. La force de caractère, dit la Bible du Sommeur, qui a été lue tantôt par Yvan. La bonne conduite, dit la Bible en français courant. Alors, ce n'est pas un terme facile à traduire, mais on est invité à ajouter à notre foi quelque chose que les anciens traducteurs de Louis II ont appelé la vertu. Puis que les plus modernes ont dit, c'est quoi la vertu? Bien, quand tu es vertueux, tu as de la force morale, tu as de la qualité morale, tu as de la force de caractère, puis tu te conduis bien. Bon, en tout cas. Mais c'est notre job, à nous, pas de faire cocorico, mais d'ajouter à notre foi la qualité morale. D'ajouter à la qualité morale la connaissance. Ça nous ramène aux apôtres et aux prophètes qui peuvent nous donner une connaissance factuelle dont nous avons besoin concernant qui est Jésus-Christ et qu'est-ce que Jésus-Christ veut pour nous. Mais une connaissance factuelle, ce n'est pas suffisant. Si on veut une connaissance intime, il faut faire plus que de lire les apôtres et lire les prophètes. Il faut faire ce qu'ils disent. Puis c'est en faisant ce qu'ils disent qu'on développe notre connaissance de Jésus-Christ tout au long de notre vie de plus en plus. Alors c'est notre travail à nous, les petits coqs, d'ajouter à notre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, là les traductions ont eu aussi de la misère, les traducteurs, ils ont dit à la maîtrise de soi la patience, ça c'est les plus vieux traducteurs. Là ils ont dit oui mais c'est plus que la patience, c'est un genre de patience qui requiert de la persévérance. Ça, c'est la seconde 21. La nouvelle Bible du Sommeur, ils ont dit, « Ouais, mais c'est une patience, c'est l'endurance dans l'épreuve, vu qu'on est dans le contexte de Pierre. » Alors, en tout cas, on a comme travail, nous, d'ajouter à notre maîtrise de foi quelque chose comme de la patience, de la persévérance, de l'endurance dans l'épreuve. À la persévérance, on nous invite, Pierre nous invite à ajouter la piété. Ça, c'est presque tout le monde s'entend là-dessus, la nouvelle édition de Genève, la nouvelle Bible seconde, la seconde 21. Mais la Bible du Sommeur, qui se veut plus applicative, comme la Bible en français courant, dit c'est pas assez clair pour nous. On va traduire ça. L'attachement à Dieu. La piété, là, nous, là, les modernes, on ne comprend plus ça. On comprend mieux attachement à Dieu. Mais oui, moi j'aime ça, attachement à Dieu. C'est pour ça que Yvan a lu dans la Bible du Sommeur, je trouvais que le texte était tellement parlant. Alors, nous, si on aime l'image du coq, je ne suis pas sûr si je l'aime, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir, je l'ai saisi au bon. Elle était bonne pour toi, je ne sais pas si elle est bonne pour moi, mais en tout cas, je la ramasse. Ajouter à la persévérance l'attachement à Dieu. C'est notre job, comme c'est la job du coq de chanter pour annoncer le soleil. Il ne le fait pas venir, mais il faut qu'il fasse ce travail-là. À la piété ou à l'attachement à Dieu, ajouter l'amitié fraternelle et à l'amitié fraternelle l'amour. Permettez-moi de vous lire le reste de ce passage jusqu'au verset 11. Alors là, on était rendu au verset 7. On vient de décortiquer un peu les versets 5 à 7. Là, j'arrive au verset 8. Je vais faire versets 8 et 9. Ensuite, je vais faire une parenthèse pour aller lire un petit bout de la fin de l'Épître pour que vous voyez que c'est le but de toute l'Épître. Pour que, s'il vous plaît, là, le mois prochain puis le mois d'après, là, moi, là, je trouve que les deux, Mario puis Bruno, là, ils ont des textes à exposer qui sont très, très, qui ont des passages dedans qui sont vraiment durs. Fait que moi, je me dis, il faut comprendre que tout ça, c'est un grand contexte. Puis la fin, elle dit la même chose que le début, puis moi, j'ai la job facile de vous dire le côté positif, puis eux, ils ont la job difficile de vous dire des choses un peu plus négatives. Je ne sais pas comment ils vont présenter ça, je leur fais confiance, mais c'est un tout regroupé ensemble. J'avais dit à Gilles que je ne ferais pas de parenthèse pour être sûr que je ne passais pas mon temps, mais en tout cas, je n'ai complètement pas fait ce que j'avais dit. C'est parce que j'ai eu moins de temps, tu avais mis 40 minutes dans le programme. Puis là, on a commencé, j'avais plein de ça m'a rendu un peu déstabilisé. Par exemple, M. Gazdic disait pas de brin de scie dans l'assemblée. Il dit quand tu fais un message, il y a du brin de scie, garde ça dans l'atelier. Parle-en pas aux gens. Bon, oui, j'ai fait tout le contraire. Alors, je vais vous lire verset 8. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laisseront pas inactifs ni stériles pour la connaissance de Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, verset 9, il est aveuglé par sa myopie, il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Quand même, le chapitre 1 annonce ce qui s'en vient dans les chapitres 2 et 3 en termes d'avertissement. Donc, il y a comme un ancrage là qui est important. Moi, je vais vous lire maintenant 2 Pierre, chapitre 3, versets 17 et 18. Il dit « Bien-aimé », il finit son épître, « Bien-aimé, vous voilà averti. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraîné par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. » Revenons maintenant au premier chapitre, versets 10 et 11, la suite de 8 et 9 que je viens de lire. 2 Pierre 1, 10. « C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. » Verset 11. « C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. » Ce que j'aimerais vous dire à propos des versets 5 à 11 là, qu'on vient d'exposer ensemble un petit peu. Dieu nous a choisis et son appel est irrévocable. Ceux qui connaissent véritablement Jésus-Christ et lui appartiennent portent du fruit et persévèrent. Ceux qui vivent une relation d'intimité avec Jésus-Christ grâce à une conversion engageant leur foi et leur repentance démontrent par leur persévérance que leur foi est authentique. Mais ceux qui s'égarent dans l'indifférence et s'y installent à demeure devraient s'inquiéter de l'authenticité de la foi qu'ils croient avoir en Jésus-Christ et de la connaissance qu'ils en ont. Là, il faut que je fasse une parenthèse, parce que longtemps, moi, le passage que Sylvie a lu au début, Matthieu 7, je me disais, dans le fond, je me demande si j'ai déjà vraiment connu Jésus-Christ comme on connaît Jésus-Christ pour être sauvé. Il venait des amis de Sarah chez nous, des catholiques, je leur disais, au fond, des fois, je me demande si j'ai vraiment compris quoi que ce soit basé sur ce passage. Je dis, voyons, non. Pas se poser ce genre de questions-là. Moi, c'est John MacArthur, dans sa Bible d'études, qui commente les passages de Hébreux et Matthieu, qui m'a beaucoup aidé. Et que j'ai compris que les avertissements qu'on va perdre, on a peur peut-être qu'on va perdre ou qu'on n'a pas notre salut, qu'on ne l'a jamais eu, sont dirigés contre, regardez le contexte, contre les faux prophètes, Matthieu 7, contre les faux prophètes, en nous disant, mais suivez-les pas, parce qu'il ne faut pas devenir comme dans leur gang. Mais il y a aussi l'élection de Dieu qui débute l'épître de Pierre, qui nous dit, non, on appartient à Dieu, il ne peut rien nous appartenir. Il y a Jean 6, 37, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors, celui qui vient à moi. Il y a Joël, quand on faisait les petits prophètes, c'est autre chose, c'est pas exactement pareil, mais moi, ça m'a beaucoup parlé, parce que c'est le même Dieu. Et Dieu, il a dit, aujourd'hui encore, tournez-vous vers moi. Puis tous les malheurs que je viens de vous dire, là, ils seront pas là. Aujourd'hui encore. Donc, toute personne humaine qui vit aujourd'hui, qui entend mon message ou qui se pose des questions, puis qui dit « Moi, je veux venir à toi. » Jamais tu seras mis dehors. Le Dieu de Joël nous invite à le croire, puis Jésus, à travers la bouche, à travers sa propre bouche, mais à travers la plume de Jean, nous en donne une garantie. Alors, Je vais terminer là-dessus. Il est déjà, à ma montre, il est déjà dépassé 10h30.